Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Entrée en lice victorieuse pour Union Neuchâtel dans le premier acte des quarts de finale de play-off de Swiss Basketball League face à Sam Massagno. Les Neuchâtelois l'ont emporté 78 à 70 en terre tessinoise. Le rideau retombe sur le 8e salon de l'immobilier neuchâtelois. La manifestation s'achève sur une légère baisse de fréquentation avec un peu plus de 11 000 visiteurs. La partie de Monopoly géant de jeudi restera l'un des moments forts. Créer un tricot sur l'une des anciennes machines du biais. Une exposition redonne vie à des modèles développés par l'entreprise emblématique basée autrefois à Couvet. Le scénario se profilait clairement, il s'est réalisé cet après-midi. Primoz Roglic a remporté le 72e tour de Romandie cycliste. La 5e étape qui s'est achevée à Genève est quant à elle revenue à l'allemand Pascal Ackermann. L'atmosphère est orageuse, averses et rafales de vent sont au menu météo de ce soir. Le premier acte des quarts de finale de play-off entre Union Neuchâtel et Sam Massagno vient de se terminer en Swiss Basketball League. Les unionistes l'ont emporté sur le score de 78 à 70. Ils mènent donc cette série qui se joue au meilleur des 5, 1 à 0. Et on retrouve tout de suite Jérémy Pignard qui est en direct du Tessin avec un invité, l'unioniste Brian Savoie, si je ne me trompe pas.
Oui, le meneur neuchâtelois, l'un des acteurs majeurs de cette victoire, 12 points, 7 assists. Brian, bonsoir.
Bonsoir.
Brian Savoie, on disait que cette équipe de Neuchâtel se cherchait peut-être un petit peu dernièrement. Est-ce que ce soir-là, à Massagno, vous tenez presque un match référence pour entamer ces play-offs?
Oui, on avait déjà fait un match super intéressant contre Boncourt en fin de saison. Mais maintenant, on arrive à nouveau à le refaire en étant très solide en défense et en attaque. Donc maintenant on a des pistes pour continuer à travailler pour la suite des playoffs.
On le voit au score, vous concédez que 70 points et ce soir avec vous, avec l'option Cédric Mafuta qui a beaucoup joué également et donc beaucoup défendu, vous avez vraiment axé là-dessus, être agressif sur les Tessinois.
Oui, je pense que ça s'est vu pour ceux qui ont regardé le live stream, ça s'est vraiment vu qu'on était très agressif en défense, aussi en rebond, on gagne la bataille des rebonds, des interceptions, on est plus adroit qu'eux, donc vraiment on a pris le dessus et puis j'espère que ça va nous aider aussi psychologiquement pour la suite.
En première mi-temps, il y a deux blessures du côté de Massagno, celle de Justin Remerson, celle de Tyler Ongwae qui revient après par contre en deuxième, peut-être un peu diminué. Quelle importance vous accordez dans la physionomie du match à ces deux blessures? Est-ce que ça a été le tournant?
Je suis pas sûr que ce soit le tournant. Par contre, c'est vrai que c'est des joueurs importants pour eux. Ça nous a aidés. Par contre, mentalement, on était dans le coup dès le départ. Donc je pense qu'on avait quand même des chances de l'emporter, même s'ils avaient joué.
Alors maintenant, ça fait 1-0 pour Union Neuchâtel dans cette série des quarts de finale de play-off. Le départ idéal, qu'est-ce qu'il faudra faire mercredi? Ils vont vous attendre sur les points que vous avez développés, les points forts que vous avez développés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour essayer de venir voler cette deuxième manche ici?
Je pense que le plus difficile va être de réussir à avoir la même énergie qu'aujourd'hui. En gardant le même principe, on ne va pas forcément changer grand-chose. Par contre, réussir à avoir la même énergie, ça va pas être facile. On va essayer de le reproduire.
Très bien, merci beaucoup Brian, merci, bravo. Et donc après cette victoire 78-70 d'Union Neuchâtel sur le parquet de Massagno, Union qui mène 1-0 dans cette série au meilleur des 5 matchs. La deuxième manche, Sonia, ce sera pour mercredi soir 19h30 et on y sera évidemment.
Merci Jérémy Pignard et Brian Savoie pour cette analyse à chaud. Le reste de l'actualité sportive, ce sera d'ici quelques instants dans le Point Sport. Les rois de l'immobilier ont quitté leur trône. La 8e édition du Salon de l'immobilier neuchâtelois s'est achevée en fin d'après-midi au patinoire du littoral à Neuchâtel. Entre 11 000 et 11 500 personnes y ont pris part, selon les premières estimations. C'est un peu moins que l'année passée, avec ses 12 000 visiteurs. La météo ensoleillée peut expliquer cette baisse. La journée de jeudi s'est toutefois soldée sur un record, avec la venue de 3 000 personnes. Le Monopoly géant qui a réuni les vedettes de l'immobilier, avec Christian Constantin, Bernard Nicot, Raphaël Oradiqué et Pierre Kohler y est pour beaucoup. De quoi donner le sourire au président du Salon de l'immobilier neuchâtelois, Frédéric Pont.
C'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté que l'objectif est atteint. C'était mon petit délire personnel de l'époque, de faire venir ces vedettes de l'immobilier. Il y a certains égos, certains niveaux de communication. J'y suis arrivé, les 6 ont répondu présent. On l'a joué, un peu côté bling-bling, mais côté humour, décalé, avec bien entendu, sans oublier Thomas Wiesel, qui a été piquant au bon sens du terme, Suzanne Dalli, qui a bien fait son travail de journaliste. On a vendu les trônes, bien au-delà de mes espérances, pour 18 000 francs qu'on verse à Just for Smile. Donc oui, c'est fabuleux. C'était un moment inoubliable pour nous, organisateurs.
Et le Salon de l'immobilier neuchâtelois, c'est aussi toute une série de conférences à l'image de celle donnée hier par l'association Femmes PME Suisse Romande sur la thématique de la gestion du temps. Cette entité accueille des femmes qui occupent des fonctions dirigeantes au sein d'entreprises. La majorité des PME neuchâteloises sont des structures avec peu d'employés, souvent à caractère familial, ce qui peut poser certaines difficultés aux femmes. Christiane Charmet, présidente de l'association.
La difficulté, c'est qu'elles se mettent peut-être pas toujours en évidence parce que la femme dans la structure familiale, je schématise, mais en général, l'homme s'occupe de la partie technique et la femme de la partie administrative. Donc elles sont peut-être moins au front, moins sur le devant de la scène que l'homme. Et puis, je trouve dommage parce qu'elles méritent une place, elles méritent d'être vues et leur travail surtout mérite d'être valorisé et reconnu. Nous, avec l'association, c'est ce qu'on aimerait mettre aussi en avant, c'est que les femmes ont une place hein, dans l'économie en général. En se rencontrant, en créant son réseau, et puis en ayant du plaisir à organiser à des conférences, des visites d'entreprise, des thématiques très intéressantes pour notre fonction quotidienne.
Les organisateurs du Salon de l'immobilier neuchâtelois se tournent déjà vers la prochaine édition. Ils évoquent l'écologie et les aspects culinaires comme potentielle thématique pour le 9e salon. Les anciennes machines à tricoter Dubier reprennent vie. 6 modèles ont été remontés pour intégrer une exposition présentée sur le site de l'ancienne entreprise emblématique de Couvet, leader mondial de la machine à tricoter avant sa faillite en 1987. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la quinzaine du patrimoine scientifique et industriel, à laquelle 25 sites neuchâtelois participent jusqu'à dimanche prochain. Daniel Huguenin-Dumitan, président de l'association du musée industriel du Val de Travers.
Nous avons remis 6 machines en fonction pour cette exposition, avec lesquelles on peut maintenant sortir des tricots simples dans un premier temps, parce qu'on cherche maintenant à se documenter dans les archives industrielles des modes d'emploi de ces machines pour essayer d'en utiliser, si vous voulez, la majeure partie des possibilités.
Et puis le public peut aussi entendre le témoignage d'anciens mécaniciens tricoteurs. Quelles ont peut-être été les anecdotes qu'ils évoquent pour les visiteurs ?
C'est des gens qui sont naturellement aujourd'hui pleins d'expérience, relativement âgés, mais qui, quand on les met devant une machine ou devant une pièce détachée, sont là à vous expliquer, ils ne tarissent pas d'éléments de l'époque à laquelle ils participaient, notamment dans leurs nombreux voyages dans le monde entier, où ils installaient des machines, où ils faisaient des réparations. Et c'est toujours très très intéressant de les écouter. Une petite anecdote, hier, un de ces anciens mécaniciens tricoteurs est venu. Il était de piquet en principe pour 2 heures et on a dû presque le mettre dehors à la fermeture tellement il n'arrêtait plus d'expliquer les choses. Donc ils sont vraiment pétris de ces connaissances et notre volonté aujourd'hui, c'est de profiter de ces connaissances pour essayer de transmettre quelques éléments.
Daniel Huguenin-Dumitan rêve par ailleurs de créer une maison de l'industrie. Comme l'indiquait Arc Info, le lieu réunirait les activités industrielles qui ont marqué la région, comme la fabrication de ciment Portland, d'ébauche pour l'horlogerie ou encore les activités de Tornos. Les politiciens ne sont pas épargnés par les menaces, mais le phénomène reste stable en Suisse. L'an passé, 726 cas de menaces proférées à leur encontre ont été enregistrés, dont 10% ont été jugées sérieuses. Les conseillers fédéraux, les parlementaires et les procureurs figurent parmi les personnes principalement visées. Le parti travailliste a bénéficié d'un coup de pouce russe lors des élections britanniques de l'an dernier qui ont permis à Theresa May de conserver les rênes du pouvoir. C'est ce que révèle une étude de l'université de Swansea publiée aujourd'hui. Selon ce document, environ 6500 comptes Twitter russes ont diffusé des messages en faveur du parti travailliste et de son candidat Jeremy Corbyn. Les messages critiquaient également la première ministre conservatrice Theresa May. Emmanuel Macron et Theresa May, justement, appellent la communauté internationale à renforcer l'interdiction des armes chimiques. Un appel lancé par le président français, la première ministre britannique, à l'occasion du 21e anniversaire de la Convention sur l'interdiction de ce type d'armes et qui intervient également un mois après l'attaque menée sur la ville de Douma, en Syrie. Le régime syrien de Bachar al-Assad est accusé d'avoir recouru à des armes chimiques à cette occasion. C'est une première pour la Tunisie. Policiers et militaires ont pu se rendre aux urnes lors du premier scrutin municipal depuis la révolution de 2011. Auparavant, ces citoyens n'avaient pas le droit de vote. Les autorités estimaient qu'ils avaient un devoir de réserve strict et qu'ils devaient se tenir à l'écart de la vie politique. Pour beaucoup, il s'agit d'un acquis historique. Le trafic ferroviaire devrait revenir à la normale entre la Suisse et la France demain et mardi, même si quelques perturbations pourraient encore subsister demain matin. En raison de la grève des cheminots de la SNCF, seuls 6 à 7 allers-retours de TGV étaient assurés ce week-end. Une grève que près de 6 Français sur 10 jugent injustifiée selon un sondage. On parle sport avec vous, Lydiane Guena. Bonsoir.
Bonsoir. Vous l'avez entendu en début de journal, Union Neuchâtel a remporté son premier match de quart de finale des play-offs. Les unionistes se sont imposés 78 à 70 face à Massagno. Dans l'autre rencontre du jour, les Lions de Genève ont battu Montais 83 à 63. Le Tour de Romandie a vécu son épilogue aujourd'hui à Genève. Une seule inconnue persistait avant le départ à Mont-sur-Rolle ce matin. Qui pour remporter cette ultime étape? Car pour le reste, tout était joué depuis hier soir. On savait que le Slovène Primoz Roglic remporterait cette 72e édition du Tour de Romandie. Aujourd'hui, sur le quai du Mont-Blanc, c'est l'Allemand Pascal Ackermann qui a été le plus fort. Il a remporté l'étape au sprint. Mais le grand homme de ce Tour de Romandie, c'est bien Primoz Roglic. Le Slovène a enfilé le maillot jaune mercredi à Delémont et ne l'a plus lâché. Pour la première fois de la semaine, on a vu un sourire sur son visage aujourd'hui sur le podium à Genève. Primoz Roglic a enfin pu lâcher la pression.
Il y avait du stress tous les jours pour défendre ce maillot jaune avec mon équipe. On a montré une véritable combativité, tous mes coéquipiers l'ont fait. Je suis très fier de faire partie de cette équipe et d'avoir réussi à conserver ce maillot jaune jusqu'à l'arrivée finale.
Du côté des organisateurs, on avait également le sourire au moment de tirer le bilan de ce Tour de Romandie. Richard Chassot, directeur général.
Un bilan très intéressant pour nous parce que sur le plan de vue sportif, ça a été vraiment une très très belle édition. On a eu des coureurs qu'on attendait justement, qu'on annonce comme ça, comme les leaders et qui font la course et qui sont sur le podium. Donc Roglic, Bernal et puis Richie Porte. On connaissait pas vraiment l'ordre, mais on savait que Richie était un poil en dessous et malgré, c'est vrai, le décès d'Andrié, c'est toute la bonne volonté qu'ils avaient à vouloir lui rendre hommage sur la route. Il manquait un petit quelque chose et c'est vrai que Roglic et Bernal étaient très très forts. Ils ont fait un festival dans l'étape de montagne. Enfin, très très beau contre la montre. Je pense qu'on a assisté à une très belle course. Ouais. Et puis le soleil, je dois être honnête, nous a apporté beaucoup d'enthousiasme dans cette édition.
Seule petite ombre au tableau, le manque de Suisse et particulièrement de Roman, présent sur ce Tour de Romandie version 2018. On retrouve Richard Chassot.
On a que 6 Suisses au départ, qu'un seul Roman, Daniel Ovis. À mon avis, on a un très très bon coureur qui s'appelle Sébastien Reichenbach, avec un Moravito qui lui est plus un capitaine de route aujourd'hui, mais qui reste un coureur apprécié des Romans. Et quand on organise une course à ce niveau-là, on souhaiterait les avoir au départ. C'est une évidence. Après, c'est pas eux qui décident. Le programme de course est pas simple. Au niveau du World Tour, il y a beaucoup beaucoup d'épreuves. On sait que Thibaut Pinot, qui veut faire un Giro au plus haut niveau, a besoin de ces coureurs-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pas une critique. C'est juste un regret en tant qu'organisateur que nos meilleurs coureurs au Romand soit pas là.
La prochaine édition du Tour de Romandie se déroulera du 30 avril au 5 mai 2019. Le prologue ainsi que les deux premières étapes auront lieu dans le canton de Neuchâtel. Le Valais accueillera une étape de montagne. La fête du cyclisme en Romandie a malheureusement été endeuillée. Un motard accompagnant les cyclistes s'est tué dans un accident sur l'étape du jour. Selon la police vaudoise, le motard de 66 ans était seul en cause. Une enquête a été ouverte. Les favoris ont répondu présent au Roc du Littoral. La deuxième étape de la Garmin Bike Cup de VTT a eu lieu ce matin. Chez les hommes, c'est l'inévitable Nicolas Lutti qui a bouclé le parcours de 32 km en 1h13 et 41 secondes. Le Portugais Vitor Rodriguez se classe deuxième à 1 minute 12, juste devant Emilien Barben qui franchit la ligne avec un retard d'1 minute 19. Patrick Lutti, le frère de Nicolas, s'est classé quatrième en 1h et 17 minutes. Chez les femmes, c'est Christelle Baumann de Montalcher qui s'est imposée sur le parcours de 24 km en 1h et 9 minutes. La chaudefonnière Pauline Roy est deuxième à 1 minute 36 et le podium est complété par Ilona Chavaya à 2 minutes 14. Laurent Sierli brille à nouveau aux 20 km de course à pied de Lausanne. La Vaudrusienne s'est classée deuxième de la course vaudoise cet après-midi. Elle a été devancée par Laura Rebeck de plus de 3 minutes. La Vaudoise qui a fini la course en 1h14. Le podium est complété par la Genevoise Maya Chollet à plus de 5 minutes de la grande gagnante du jour. Le Final Four de volleyball junior se tenait ce week-end à Neuchâtel. Les quatre meilleures équipes espoirs s'affrontaient dans quatre catégories différentes, chez les femmes et chez les hommes. Une seule équipe neuchâteloise était présente, les garçons de Colombier Volley qui évoluent en moins de 19 ans. Les Neuchâtelois ont terminé troisième. Les objectifs ont-ils donc été atteints? La réponse du président de Colombier Volley, Patrick Bordoni.
L'objectif clairement avoué en début de saison, c'était de se qualifier pour ce Final Four, d'autant plus qu'il se passait à Neuchâtel. Donc vraiment, ça c'est un objectif qui est parfaitement réalisé. C'est d'autant plus que les joueurs l'ont réalisé sans leur meilleur joueur, Jérémy Muller, qui a fait quelques apparitions pour donner un coup de main, puisqu'il était un peu blessé. Donc vraiment, un gros travail qui a été effectué tout au long de la saison pour atteindre cet objectif. Si on m'avait dit en début de saison, on signe pour une troisième place, je l'aurais fait tout de suite. Mais là, au vu du match d'hier, il y a forcément un petit côté des déceptions, mais les joueurs ont super bien réagi aujourd'hui. Il y avait une grosse déception hier de perdre ses demi-finales 16-14, et là aujourd'hui ils ont magnifiquement réagi.
Young Boys remporte son 12e titre de champion de Suisse de Super League 32 ans après leur dernier. Le Neuchâtelois et ancien international Steve Van Bergen est le capitaine de l'équipe bernoise. C'est donc lui qui aura l'honneur de soulever la coupe en fin de championnat.
Bon, écoutez, ça c'est la cerise sur le gâteau, si on peut dire, en tant que capitaine, mais je crois que c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Et aujourd'hui, je suis fier d'être capitaine de cette équipe-là, parce que c'est vraiment des gars extraordinaires, une équipe qui s'est battue, qui a su mettre les égos de côté. On a des magnifiques histoires. Marco Belfli, qui est là depuis 15 ans, qui était au début de l'année remplaçant, qui hier fait un match extraordinaire, nous arrête le pénalty derrière on marque. Voilà, c'est des histoires qui sont extraordinaires. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis extrêmement fier d'être capitaine de cette équipe.
32 ans, Kibé attend ce titre. Quel liesse extraordinaire. La fête a été à la hauteur de l'attente.
Oui, et même plus que ça, on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'on nous le disait souvent, vous pouvez à peine vous imaginer ce qui se passerait dans le cas où on gagnerait un titre. Ça a été chose faite hier, et c'est vrai qu'on s'est fait plein de scénarios dans la tête, mais ce qui s'est passé hier à Berne, c'était juste incroyable, avec bien sûr l'envahissement du terrain, mais les gens sont restés jusqu'à 3-4 heures du matin au stade, en ville, c'était la folie. Ils ont laissé les bars ouverts toute la nuit et oui, Berne, hier, c'était vraiment une ville méconnaissable.
Prochain objectif pour le club de la capitale, c'est la finale de la Coupe de Suisse contre Zurich qui se jouera le 27 mai à Berne. Trois matchs se jouaient cet après-midi en Super League de football toujours. Bâle a écrasé Thun 6-1, Lugano s'est imposé 2-1 face à Saint-Gall et Zurich et Sion se sont partagés l'enjeu 3-3. En Challenge League, Rapperswil-Jona et Wollen se sont quittés sur le score de 2-2 cet après-midi. Neuchâtel-Xamax FCS joue demain soir face à Chiasso à 20h à la Maladière. En Première League classique de football, Portal Banglais Trans a fait match nul 1-1 face à Obervalis Nater cet après-midi. Un échelon plus bas en deuxième Ligue Inter, Stade Payern s'est imposé 3-1 face au FC Richemont. Rafael Nadal s'impose pour la 11e fois à Barcelone. Le tennisman espagnol a remporté le tournoi ATP 500 catalan en battant 6-2, 6-1 en finale le jeune grec Stefanos Tsitsipas. Le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Azerbaïdjan à Bakou. Le pilote de chez Mercedes reprend la tête du championnat du monde à l'Allemand Sébastien Vettel, qui n'est arrivé que quatrième cet après-midi. Le Finlandais Kimi Raikkonen est arrivé deuxième au volant de sa Ferrari et c'est le Mexicain Sergio Pérez qui prend la troisième place avec sa Force India. Le soleil a dû céder sa place aux nuages. Une nouvelle dégradation va nous accompagner ce soir avec l'arrivée d'averses à caractère orageux. De fortes rafales de vent sont aussi annoncées. Demain, rebelote, les nuages résiduels devraient assez rapidement laisser la place à un temps bien ensoleillé et le soleil devrait une nouvelle fois céder le pas aux nuages et aux averses en fin de journée. Côté température, il fera entre 3 et 9 degrés le matin. L'après-midi, le mercure oscillera entre 12 et 17 degrés au maximum l'après-midi. Mardi, le temps s'annonce moins encourageant avec des averses et des températures assez basses pour la saison. On parle même de flocons jusqu'à 1400 mètres.